Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Merci à vous d'être à l'écoute. Alors, à l'émission aujourd'hui, plusieurs sujets d'actualité politique avec nos comparses Steve Fortin et Frédéric Bérard. Dans un instant, bien sûr, l'élection américaine retient notre attention puisque c'est dans quelques heures à peine, enfin ce mardi, le 3 novembre. Et bien sûr, d'autres sujets d'actualité politique, notamment au Québec. Et dans la deuxième moitié de l'émission, nous revenons sur le référendum de 1995, puisque ça fait 25 ans, ça faisait 25 ans hier, le 30 octobre, qu'avait eu lieu cet événement historique. Et nous avons le bonheur de recevoir un acteur important, quelqu'un témoin, à la fois témoin privilégié et acteur important de cet épisode, l'ancien chef du Parti québécois, aujourd'hui chroniqueur au Devoir, Jean-François Lisée, alors vers dans une trentaine de minutes environ. Alors, d'abord, allons parler actualité politique avec le duo de choc habituel. J'entends déjà des bruits, c'est bon signe. Bonjour Frédéric Bérard. Et bonjour Steve Fortin.
Salut.
On n'a pas l'habitude à cette émission et ensemble, vous et moi, de parler de M. Trump et de ses pitreries. On le fait le moins possible parce qu'on passerait l'année à ne parler que de ça. Mais là, l'élection arrive. Si on n'en parle pas aujourd'hui, comme je disais récemment, on n'en parlera jamais. Avez-vous des pronostics? Est-ce que Frédéric Bérard, là, d'après vous, qui gagne?
De ce que je peux voir, je pense que c'est relativement clair que Biden va l'emporter. Il a même surpris apparemment dans plusieurs États là, où on ne l'attendait pas, par exemple le Texas. Ceci dit, j'ai vu une autre étude, ça c'est hier ou avant-hier, je me souviens plus de la source, mais ça avait l'air plutôt crédible, une source classique, là, qui revenait sur ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a une portion appréciable d'électeurs qui, dans un sondage, ne vont pas se vanter de voter pour Trump, mais qui le font. Et ça, c'est sûr que ça peut venir, changer la donne. Il faudra voir jusqu'à quel niveau, essentiellement. Mais dans tous les cas, moi, franchement, je sais que Joe Biden, c'est pas le gars le plus excitant de la planète. Là, on s'entend bien. Il est peut-être même un peu sénile sur les bords, mais tout pour remplacer Trump, là, peuvent même être, quant à moi, un melon d'eau, une barre tendre à la place de Trump, ça va faire mon affaire, là, parce que ce gars-là, franchement, surtout s'il entre pour un deuxième mandat, sachant que ce sera par définition son dernier.
Faudrait savoir si le melon d'eau et la barre granola ont une base électorale aussi mobilisée et solide que M. Trump. Cependant, Steve Fortin, est-ce qu'on assiste, d'après vous, à une reprise du phénomène de 2016 où le tout commentariat et les maisons de sondage se sont vus asséner une claque au visage par un Trump plus fort que prévu? Est-ce que c'est encore possible, ça, d'après vous?
La plus grande remise en question des maisons de sondage en Amérique du Nord s'est produite par quelqu'un qui habite Ottawa. C'est un monsieur qui s'appelle Frank Graves, qui est PDG de la firme Echos. Suite à la débâcle des sondeurs pour l'élection provinciale de la Colombie-Britannique en 2011, il avait publié une longue étude et il avait dit « unapologetic », c'est-à-dire donc sans excuse et sans rien. Il avait analysé à quel point et comment et les méthodes, comment il fallait que ça change. On était à ce moment-là en 2011. Ça a été pour lui le début d'un blog politique où il a regardé l'état de comment on sondait. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis et au Canada qui avaient regardé ça, au Québec aussi, qui avaient regardé ça puis qui s'étaient dit « en effet, il faut absolument qu'on regarde ça ». En 2016, il y a plusieurs sondeurs américains qui se sont regroupés puis qui ont dit, savez-vous quoi, on va recommencer, on va revoir comment on fait nos sondages, parce qu'il y avait deux phénomènes qui avaient été présents en 2016, c'est-à-dire ce qu'on appelle le voteur discret, celui qui ne veut pas nécessairement dire qu'il était pour appuyer Trump.
Ce dont parlait Frédéric Bérard, le vote honteux, socialement difficile à admettre.
Oui, il y avait le vote discret, puis l'autre vote qu'on n'avait pas comptabilisé, c'était les gens qui étaient pour aller voter pour la première fois ou des voteurs qui souvent s'étaient abstenus d'aller voter. Et là, cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que il y a eu une telle une, une telle affluence dans le vote par anticipation. On parle maintenant, on approche le 70 millions, c'est plus que la moitié du nombre de votes total. Et je regardais ce matin sur l'excellent site 538, qui est l'équivalent du 308 là, ou 338.com ici, mais aux États-Unis, ça fait plus longtemps qu'il existe. Juste aujourd'hui, il y a une dizaine de sondages qui ont été publiés. Et ce que j'aime, moi, c'est que chacune des firmes de sondage est cotée de A à E. Et quand on regarde ces sondages-là, c'est à peu près, il y en a 9 sur 10 qui donnent une avance significative à Biden.
Oui, sauf Rasmussen, je crois. Mais qu'est-ce que c'est, ces cotes-là? C'est des cotes de fiabilité? On les a évaluées, c'est ça?
Et ces cotes de fiabilité-là sont reconnues. C'est pas juste les gens du site qui font ça. En fait, c'est un répertoire où, justement, t'as des politicologues, tout ça, puis on va accorder une note aussi en fonction des prévisions passées. Et remarquons qu'aujourd'hui aussi, il y a eu une pléthore de sondages régionaux. Au Texas, c'est très particulier parce qu'on le sait, il y a 80 millions de votes déjà comptabilisés. 80% du vote qui a été comptabilisé déjà au Texas. Donc, c'est hallucinant. Là. Il y a l'écrasante majorité des gens ont déjà voté. Donc, on parle de sortie de bureau de vote de scrutin. C'est 50-48 pour Biden. Et là, c'est différent. C'est pas un sondage sur les intentions de vote. Là, on est capable d'aller chercher du data, mais du data de gens qui ont déjà voté. Donc, tu sais, c'est particulier parce que le vote par anticipation dans chacun des États, c'est très différent comment on procède. Et dans bien des cas, les gens se sont pitchés aux urnes ou sinon ont envoyé leur vote de toutes les façons possibles pour qu'ils soient comptabilisés avant. Et ça, c'est tout nouveau.
C'est la pandémie, évidemment, qui est aussi.
Je crois que Biden va l'emporter et on est à l'abri des mauvaises surprises comme on avait vu et qui vont éviter qu'un Raphaël Jacob soit penaud devant la caméra et se dise...
Ou vous, Steve Fortin, parce que j'allais dire par équité, on va vous demander de vous prononcer vous aussi, comme ça on pourra rire de vous également la semaine prochaine, si jamais. Mais dites-moi, Frédéric Bérard, faut dire quand même qu'en 2016, les sondeurs, du point de vue du suffrage, du vote là, en général, n'étaient pas tant que ça à côté de la plaque. Et là, il y a la question de ce système américain de suffrage universel indirect qui passe par les grands électeurs et qui peut donner des disparités entre les suffrages et le résultat. M. Trump, la dernière fois, avait quand même obtenu moins de votes que Mme Clinton. Est-ce que ça pourrait être un élément qui joue en sa faveur encore cette fois-ci?
C'est sûr que c'est plus difficile à prévoir qu'ici, par exemple, au Canada, il y a une certaine forme de distorsion, là, vous l'avez bien dit, je suis d'accord avec vous. Ce que je comprends, par contre, actuellement, c'est que Biden est actuellement jugé beaucoup moins rébarbatif pour plusieurs que l'était Clinton.
Moins clivant, hein, c'est ça.
Il y avait un vote pro. Trump a ramassé du vote qui était clairement anyone but Clinton, là on s'entend bien, et là évidemment avec toute l'affaire les conneries là, de la sous-sol de pizzeria à Washington, puis là bon toute la patente, le deep state et trucs mûches,
les théories du complot, oui.
Oui, ça avait créé vraiment clairement une espèce de clivage assez épouvantable. Donc, je suis assez certain qu'en 2016, il y a plusieurs personnes qui ont voté non pas pour Trump, mais contre Clinton. Alors qu'ici, ce phénomène-là n'existe probablement pas parce que Biden, il est plate comme la pluie, essentiellement. Pas grand-chose à... il n'y a pas grand-chose de rébarbatif, justement. Et donc, de ce fait-là, possiblement, et là, évidemment, je suis incapable de dire dans quelle proportion, qu'une partie du vote, donc que Trump est allé chercher en 2016, qui ne pourra pas aller chercher aujourd'hui, jumelé au fait, évidemment, que l'Américain moyen n'est pas nécessairement un imbécile fini. Là. Tu vois bien là, qu'est-ce que Trump a fait pendant 4 ans. Là, je comprends, il y a quand même encore une force d'attraction énorme, et oui, il y a un paquet d'imbéciles, là, notamment aux États-Unis, mais reste que celui qui est allé voter contre Clinton en 2016, après avoir vu le bilan de Trump, si on part de la prémisse qui est moyennement raisonnable, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que let's go chez Joe. Ça va être plate, mais au moins, on va reprendre une espèce de vie normale.
C'est sûr que c'est l'élection, une des premières, une des rares, peut-être la seule, qui ne porte pas que sur l'économie dans l'histoire des élections américaines. Là, celle-ci, à cause de la COVID. Mais il reste que l'économie va moins bien qu'elle allait dans les 2 premières années du mandat de M. Trump. Peut-être que ce sera une difficulté pour lui. En tout cas, chers auditeurs, vous avez remarqué que nos deux experts...
Excusez-moi, ce que vous venez de dire, vous avez parfaitement raison, parce que pendant longtemps, il pouvait dire, regardez, l'économie va bien, ça n'a jamais été aussi bien.
C'est ça.
Alors, grâce à moi, mais là, évidemment, là, tu viens de te péter la gueule là-dessus, plus une gestion de pandémie qui est absolument catastrophique. On l'oublie là ici, là, mais quand ils sont rendus à pas loin de 300 000 morts. J'ose croire qu'il y a des gens là-dedans qui vont s'en rappeler. Là.
Alors, vous avez vu, chers auditeurs, nos deux experts prédisent une victoire de M. Biden. Je ne me prononce pas parce que moi, je suis l'animateur, alors évidemment.
Nick, j'aimerais quand même je veux juste dire un truc sur ce que Frédéric a dit. On a cette fois-ci été capable de sonder justement selon une donnée qui est très intéressante en terminant là-dessus. En 2016, il y avait effectivement un vote de gens qui disaient ben ni un ni l'autre des deux candidats nous intéresse, et ce vote-là a plutôt été vers Trump. Tandis que cette fois-ci, quand on pose la même question à des gens qui sont plutôt des indépendants, des indécis, Biden remporte ce côté-là, puis ça va jouer.
Alors, à suivre. Traversons la frontière, allons chez le petit voisin du Nord, le Canada, Justin Trudeau, cette semaine hier en fait, qui s'exprimait dans la foulée des épouvantables événements survenus en France ces derniers temps. Bien sûr, ce meurtre d'un professeur, M. Samuel Paty, suivi du meurtre de trois autres personnes dans une cathédrale de Nice. M. Trudeau était appelé à se prononcer dans ce contexte-là, sur la liberté d'expression et ses éventuelles limites, si on veut. Et justement, c'est ça la position de M. Trudeau. Il a dit, mais vous savez, la liberté d'expression, oui, nous allons la défendre avec force. Par contre, elle a des limites. Voyez, par exemple, vous n'avez pas le droit d'entrer dans un cinéma et de crier au feu. Ce parallèle en a fait, pas juste le parallèle, en fait, cette position-là, qui est une sorte de oui-mais, a suscité beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric Bérard, vous qui avez reçu Trudeau dans votre studio?
Ben, il est reparti hein, depuis.
Oui.
C'est minable, en fait. Justin, c'est minable. Il n'y a pas vraiment d'autres mots, malheureusement.
Essayons de sortir du concert, juste pour essayer de me faire l'avocat du Trudeau ici. Est-ce qu'on peut arriver dans ce débat-là à dire, bon, c'est vrai qu'il y a une forme de bienséance en même temps qu'il faut respecter, ou est-ce que du seul fait d'avoir répondu ce qu'il a répondu dans le contexte actuel, M. Trudeau a commis une bourde?
Quand il dit que la liberté d'expression n'est pas absolue, évidemment qu'il a raison, je me fais en quatre pour l'expliquer à chaque jour, dans des chroniques ou autres, mais c'est parce que là... On ne parle pas les limites en question là, c'est pas compliqué, c'est l'incitation à la violence ou la propagande haineuse.
Ah, c'est ce qui est prévu par la loi en fait.
Oui, c'est prévu par la loi là.
Diffamation.
Nous ajoute un nouveau standard moral là, pro woke. Ça serait bien qu'ils nous en fassent la description et qu'on soive le mémo là, parce que moi j'étais pas encore au courant. Donc tout ça pour dire que si tu dessines Mahomet, moi j'ai pas vraiment d'intérêt. Premièrement, je dessine très mal, puis deuxièmement, je m'en fous de Mahomet. À vrai dire, j'ai d'autres obsessions que ça dans la vie. Il y en a qui sont obsédés par les musulmans, puis ça les excite. Bon ben, qui s'excite avec ça? Mais la liberté d'expression justement protège le discours qui choque. Si le discours ne choque pas, vous n'avez pas, puis ne déplaît pas ou ce que vous voulez, vous n'en avez pas besoin de liberté d'expression. Véronique Cloutier n'a pas besoin de liberté d'expression parce que tout le monde l'aime, Véronique Cloutier, fait qu'on s'en fout. La liberté d'expression, elle est utile quand quelqu'un dit des trucs qui brusquent, qui choquent. À l'époque, c'était face au roi, par exemple, face à la gestion de ci, face à la gestion de ça. C'est pour ça qu'on a protégé cette liberté-là dans les instruments internationaux et ainsi de suite, et par la suite au Canada, au Québec. Donc, de me dire, oui, mais là, en d'autres termes, le cinéma criait au feu. Fait que là, t'es en train de me dire, en gros, si j'ai bien saisi, que le gars a un peu couru après. Fait que c'est un peu la métaphore de la fille qui s'est fait violer parce que sa jupe était trop courte. T'sais, s'il avait fermé sa gueule avec Mahomet, il serait pas mort, évidemment. Fait que dis-moi, non, ça sert à quoi la liberté d'expression à ce moment-là?
Steve Fortin...
Elle adopte un discours woke, fait plaisir. Ah ben non, mais je veux pas... Puis ça, c'est dit, comprenez-moi bien... Moi, je suis pas Charlie. Les gens disent « Ah, je suis Charlie, je suis pas Charlie. » Charlie, je le trouve islamophobe, Charlie. J'aime pas Charlie, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça épais et dégradant.
C'est mais là, c'est-à-dire que vous l'êtes et vous ne l'êtes pas en même temps. Vous n'êtes pas un fan de la publication, mais vous êtes en faveur de la liberté d'expression, y compris pour Charlie Hebdo, non?
Exact. Donc, je ne suis pas Charlie, mais je suis pour la liberté d'expression. Donc, oui, Charlie a le droit de faire ces trucs-là. Et s'il vous plaît, dites-moi pas qu'ils sont responsables de ce qui est arrivé en 2015. Là, il y a quand même une limite à ça. Bien que l'espèce d'argument de Justin s'en va vers ça, mais une fois qu'on a dit ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut juste se rappeler de l'importance de cette garantie fondamentale-là? Parce que là, elle recule de partout. là. Dans les universités, là, tu cites un livre, pas drôle, là. Tu sais, je veux dire, le livre de Vallière, ou là, tu cites un autre de Laferrière, et là, tu te fais semi-barré, trois-quarts barré ou barré tout court en te faisant botter le cul jusque dans la stratosphère. Là, ça va pas, là. C'est de la maladie mentale, là. Bon, là, ça a juste plus de bon sens. Je ne peux même plus citer une œuvre.
Alors, Steve Fortin, juste, Frédéric Bérard parlait à l'instant du mouvement woke, donc cette nouvelle gauche américaine, à l'américaine à tout le moins, là, woke, ça veut dire éveillé, cette gauche qui se dit éveillée au sort des minorités et ainsi de suite, des minorités les plus parfois obscures qu'on ne connaissait pas jusqu'à récemment, on cherche à les défendre, mais on voit là qu'il y a un pont entre cette gauche-là, une sorte de préjugé favorable aux religieux, en quelque sorte. Hein? Ça recoupe la question sur laquelle s'exprimait M. Trudeau. Est-ce qu'on a raison de faire ce parallèle, comme vient de le faire Frédéric Bérard, entre les événements ici, par exemple, au Québec ou ailleurs, là, sur ces professeurs censurés ou qu'on veut censurer parce qu'ils prononcent des mots qui sont désormais interdits, qu'on veut interdire, et ce qui s'est produit, des choses aussi violentes que ce qui s'est produit en France?
Ben, en fait, ça ne date pas d'hier, mais par rapport à la métaphore sur le cinéma, moi, j'ai lu quelque chose d'un monsieur Léger que je ne connais pas, mais que je trouve absolument phénoménal. Ceux qui ont publié les caricatures de Mahomet n'ont pas crié au feu dans un cinéma bondé, comme le dit Trudeau. On leur a présenté un film qui a déplu à des abrutis qui ont décidé de mettre le feu au cinéma. Moi, je trouve que c'est mieux cadré comme ça, parce que c'est pas d'hier, en passant, que des progressistes, des supposés progressistes, je le mets entre guillemets, parce qu'il y a absolument rien de progressiste à se liguer ou à défendre des positions qui vont plaire aux pires orthodoxes religieux. Mais souvenons-nous quand même que la première manifestation anti-laïcité à Montréal, moi j'ai vu un paquet de monde qui se disait des progressistes, puis qui sont partis marcher en arrière de Salam El-Meniaoui puis Adil Sharkawi. Allez voir ce qu'il publie dernièrement, Adil Sharkawi, sur ses réseaux. Ça commence à faire peur un peu. J'aime pas ça, pas en tout. On est là, puis on dit, oui, mais regardez, à tel ou tel endroit, il y a des gens qui tiennent des discours qui sont absolument...
Dans un instant, oui.
C'est ça, regardez là. Là, en ce moment, ce que fait Justin Trudeau, c'est borderline clientélisme religieux. Il veut pas déplaire à certaines personnes. On sait très bien. Puis moi, ça commence à me taper un peu ses nerfs, parce que quand je vois quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, je suis pas raciste, mais tout de suite, je vais me cambrer, je vais dire « Hey, attention, là, c'est ça, j'aime pas le « mais ». Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Je suis pour la liberté d'expression, mais il n'y a pas de « mais ». Il y a des gens qui aiment pas Charlie Hebdo, puis à l'époque, il y a des gens, quand Fluide glacial était publié ou quand on lisait Les idées noires de Franquin, il y a des gens que ça les déplaisait, ou Claire Bretécher, je veux dire, tu sais, mais on ne va pas là. Puis Claire Bretécher, là, elle a ri, là, mais elle a... Aujourd'hui, ce serait impossible qu'elle puisse publier des trucs qu'elle a publiés sur, par exemple, je sais pas, moi, sur la communauté LGBT, tu sais, elle a fait des trucs qui étaient très, très loin, et pourtant, c'était de l'ironie dans bien des cas. Mais là, maintenant, on embarque dans quelque chose qui est complètement différent. Puis je lisais ce matin la commission scolaire English Montreal qui accepte...
Oui, qui va biffer le titre.
Ça sur le mot « nègre » dans des manuels scolaires. Oui. Ben là, est-ce qu'on l'aime, ce nouvel environnement-là? Là? Où c'est que ça nous amène, tout ça? Ça nous amène où?
Ben, ça va nous amener à Frédéric Bérard, là, parce qu'il y avait une objection, puis il faut qu'on change de sujet après. Allez-y donc, Frédéric Bérard, en quelques secondes.
Mais très, très brièvement, là, il ne faut pas tomber dans l'amalgame non plus. Là. Si l'imbécile Adil Sharkawi est à une manif X, il y a d'autres gens dans cette...
Il l'organisait, c'est lui, c'est l'organisateur principal.
Excuse-moi, OK, là, c'est pas pareil. Là.
Ah, c'est son collectif qui était là, puis il y a des gens qui sont allés marcher là, puis à un moment donné, moi, j'ai connu des gens qui ont quitté à un moment donné cette manif-là, parce qu'ils ont dit « Oh, attention, là, on veut pas être là. » Mais quand même, il faut...
Moi, je suis sûr que Sharkawi est payé par des identitaires juste pour être sûr d'assurer le clivage, puis mettre tout le monde...
Alors, c'est le moment où je reprends le contrôle de mon émission à nouveau. Parlons un instant. Ben oui. Parlons du référendum de 95. Ça va nous permettre de faire le pont avec notre prochain invité. On a beaucoup parlé du 50e de la crise d'octobre, un peu moins du 25e du référendum de 95. Peut-être que c'est une question quantitative. Là, quand on sera rendu à 50, on en parlera davantage. Frédéric Bérard, je commence par vous, parce que Vous êtes quand même parmi nous l'homme de gauche inclusif progressiste qui a sans doute mal vécu les propos de, par exemple, de Jacques Parizeau le soir du 30 octobre, mais vous avez annoncé, vous, sur les réseaux sociaux, que vous avez voté pour le oui. Qu'est-ce que vous... quel est le premier sentiment que vous avez quand vous repensez à cette époque-là?
Oui, c'est de la belle nostalgie. Moi, ça a été la première fois que j'ai voté. J'avais 18 ans tout juste. Puis j'ai milité pour le oui. Je suis vice-président au Smoke Meat dans un comté électoral quelconque. Là.
Ah, ça vous voit bien, ça. Oui, on vous voit au Smoke Meat.
Oui, vous savez, oui. Blaguez pas, parce que certains me voient très bien au Smoke Meat.
Oui. On veut vous rôtir.
Mais une fois qu'on a dit ça, moi, j'étais souverainiste depuis assez peu, parce qu'évidemment, à 18 ans, bon, j'ai pas eu le temps d'avoir un tour d'horizon très, très large. Mais moi, les propos de Parizeau, puis j'ai raconté l'incident là, dans ma chronique, m'ont vraiment frappé. Pardon?
Oui, non, je vous écoute.
Oui, c'est ça, okay, pardon. Oui. L'incident m'a vraiment frappé comme un coup de barquette dans le fond. Ça m'a pris un an, je dirais, avant de retrouver mes gardes, en tout ça. J'ai décroché complètement du mouvement.
Mais j'ai envie de vous poser une question là-dessus, parce que le discours que vous tenez, on l'entend souvent quand même. Et moi, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est, pardon de poser la question franchement comme ça, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que un seul homme, à un moment précis, a très clairement une défaillance? Je pense que tout le monde s'accorde généralement pour dire que c'était pas le bon discours au bon moment, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la pertinence de ce que M. Parizeau a dit sur le fond, là. Mais est-ce que c'est pas un peu facile quand même, parce que de dire ça, là, de dire moi je décroche complètement de cette option parce que Parizeau a dit ça le 30 octobre 95, est-ce qu'on doit pas regarder l'allure générale d'un mouvement politique davantage que ce que la déclaration d'un chef à un moment précis?
Bien, évidemment, puis Parizeau, je l'ai connu très, très, très brièvement par la suite. Il n'est pas plus raciste que moi, ça n'a rien à voir. On l'a vu sortir très fort contre la Charte des valeurs aussi, de son propre parti. Mais évidemment, tout ça, c'est une appréciation subjective. Moi, je vous dis que le situ de 18 ans...
À ce moment-là, c'est ça que ça vous a fait. Oui, oui.
Moi, oui. Puis, alors, à savoir si c'est justifié ou non, moi, en fait, je pense que oui. En quelque sorte, c'est justifié. C'est juste parce que moi, d'entendre un premier ministre tenir ce genre de propos... Je veux dire, faut pas me dire que c'était pas préparé, là, en quelque sorte. Il y en a qui disent, oui, il est improvisé, là, je comprends, mais il est pas con, là, il savait qu'il était encore premier ministre à ce moment-là.
Quoique.
Je vous dis, le moins beau chez les gens. Tout le temps, j'ai entendu que Bernard Landry avait engueulé une proposée dans un hôtel qui était mexicaine en disant, c'est de votre faute, et c'est tout ça. Moi, je peux pas faire partie de ça. Maintenant, est-ce que le mouvement est raciste? Ben non, j'ai jamais pensé ça, puis je dis pas ça non plus. Mais quand ils sont arrivés à flirter avec l'identitaire après le truc, les accommodements raisonnables, puis la charte des valeurs, et ça là-dessus, j'aime bien Jean-François Lisée, là, qui nous écoute peut-être, que je salue d'ailleurs.
Ben, il sera avec nous un peu plus tard.
C'est une erreur monumentale pour le PQ. Et là, ça fait 12 ans qu'on parle de ces conneries, j'insiste, là, de conneries identitaires, de chasse au voile imaginaire. Plutôt que de parler d'indépendance, moi, je me rappelle des débats à l'époque avec les Parizeau, avec les Bouchard, avec les Johnson et compagnie, qu'on les aime, on les aime pas, on s'en fout, mais c'est des gens intelligents, c'est des gens éduqués. Là, on a tombé dans une espèce de populisme, de fond de tonne, qui fait en sorte qu'on ne parle plus d'indépendance. J'espère que c'est pas à vous que je suis obligé d'apprendre ça, là, Nick Payne, là. L'indépendance n'existe plus dans la sphère publique. Ce qui importe, c'est l'identité. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la CAQ, qui est un parti fédéraliste, la dernière fois que j'ai regardé, a ramassé ce beau vote-là, a dit merci, bonsoir. Là, je suis bien au pouvoir. C'est une indépendance, mais regardez bien, probablement que le PQ va se faire sortir aux prochaines élections, puis on entendra tout parler après.
Alors, revenons à 95. Là, vous nous avez ramené en 2020. Steve Fortin, en 95, vous croyez savoir que vous votez pour le oui?
Ben oui, bien sûr. Et puis j'ai aucun problème avec la déclaration de Jacques Parizeau. Elle était malvenue au moment qu'elle a été faite, c'est bien certain. Mais je veux dire, on a pardonné des trucs qui sont pas mal plus. Tu sais, je veux dire, en gros, là, quand il est sorti, quand il a parlé de l'argent puis du vote ethnique, l'argent, il savait très bien. Moi, j'écoutais Mme Harel cette semaine qui se rappelait de cette époque-là puis qui disait tabarnouche, on comptait chacune de nos scènes. Puis ensuite, ben on repense à Jean Chrétien avec ses balles de golf puis son petit unifolié dessus, qui dépensaient sans compter, puis il fallait sauver le pays, puis nous rit d'en face, ou le PDG de TELUS qui dit, moi, j'étais bien content. Écoute, il savait très bien, il savait compter, ce monsieur-là. Par rapport au vote ethnique, c'est certain qu'à un moment moment donné, il avait fait tellement de représentations dans certaines collectivités, puis quand il s'est rendu compte, quand il l'a su, là, ça savait déjà, là, il savait déjà ce soir-là. Il faut lire le livre de Pierre Duchesne, d'ailleurs, puis il faut l'écouter quand il en parle, parce qu'il le connaissait très bien. Je veux dire, c'était quand même, tu sais, dans un comté, là, le jour où les Québécois de souche vont voter pour la CAQ à 97%, on va dire, tabarnouche, ça se peut-tu que ce soit un vote ethnique? Ben, tu sais, je veux dire, c'est peut-être, on n'a pas le droit de le dire, faut pas, tu sais, il fallait peut-être pas le dire, mais il a été déçu par rapport à ça. Maintenant, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on peut même pas saluer, tu sais, parlez-en à Sol Zanetti, qui a juste essayé de dire, ça fait 5 ans qu'il est décédé, puis qu'il a publié ça, puis s'est fait ramasser. T'as pas le droit de parler de Jacques Parizeau dans son parti, ça a l'air, si t'ajoutes pas qu'il est raciste. Tu sais, moi, j'ai de la difficulté avec ça, parce que souvenons-nous d'une chose, ceux qui ont lu le livre de Robin Philpeau, sur les dossiers noirs du Canada, les livres noirs du Canada, quand on lit ça, non, c'est normal, Esther, excusez-moi, quand on lit ça, puis qu'on se souvient que, par exemple, Christophe Siros, tout de suite après, qui dit, dans une radio allophone de Montréal, qui dit, ben de toute façon, par l'immigration puis le vieillissement de la population, le oui, ça sera plus possible. Mais moi, je trouve que c'est dans le même ordre d'idée que ce que, si on veut... c'est comparer des déclarations de parlementaires, là. Ben moi je trouve qu'il y a là-dedans aussi quelque chose qui est très très préjudiciable, mais ça a été repris par après par plusieurs tenants fédéralistes et on le savait très bien. Ben quand on regarde aujourd'hui, quand on veut parler de questions identitaires vues d'aujourd'hui, ben surprenons-nous pas, puis en passant pour mon ami Fred, il y a rien de plus identitaire comme discours en ce moment que celui de la gauche. La gauche maintenant tient le discours le plus radicalement identitaire qu'il n'y a pas, puis l'idéologie intersectionnelle, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on... C'est le
compartiment. Ouais, ce ne sont pas des identités nationales, ce sont...
Ouais. Écoute, moi, je suis tanné d'entendre ça. On plaque toujours identitaire sur... Mais non, tous les discours en ce moment qu'on entend sont identitaires. Puis la gauche fait là-dedans en masse et à côté. Ça qu'on vient de pas me dire le contraire.
En terminant là-dessus, attendez, Frédéric Bérard, je vais vous poser une question qui va vous amener là de toute façon et on va compléter avec ça parce que le temps nous bouscule un peu. Est-ce que Alors, Jean Royer, cette semaine, ancien chef de cabinet de Jacques Parizeau, notamment pendant cette période charnière là, du référendum, expliquait que, après avoir longuement étudié les résultats électoraux de 1970 jusqu'à 1994, on était venu à la conclusion, avait constaté d'abord que le vote non francophone au Québec était, pour les souverainistes, là, d'une façon ou d'une autre, était essentiellement stable et, inutile de le dire, très, très bas. Et on avait fait une croix dessus avant la, pardon, la campagne référendaire. Excusez-moi, c'est l'émotion. Est-ce que ça se peut, d'après vous, parce qu'on est là entre Québécois, Canadiens, Français à discuter du référendum et des déclarations de Parizeau, est-ce qu'on a ou non fait de la peine aux allophones et aux anglophones, mais est-ce que de toute façon, ils peuvent un jour vraiment, de façon significative, appuyer une proposition d'indépendance du Québec, d'après vous?
D'allophones et d'anglophones, mais je veux dire, le vote ethnique, là, ça vaut de ça. Là. Mathématiquement, là, c'était stupide, puis la charte des valeurs, c'était aussi stupide. Parce que c'est bien dommage, mais dans un référendum, si vous voulez le gagner, là, vous ne le gagnerez pas avec les rocs de la Chigan et Rimouski Ouest. Là, ça ne marchera pas. Ça va vous prendre Montréal. Ça fait en sorte qu'il y avait des gens là-dedans qui avaient des sympathies assez fortes pour le mouvement indépendantiste. Par exemple, les Libanais, par exemple, à peu près tous les Maghrébins. Pourquoi? Parce qu'ils sont francophones.
Ah, les Haïtiens, notamment, oui.
Les Haïtiens aussi. Mm-hmm. Et là, tu es en train de dire le vote ethnique. Le vote ethnique, si à moins que je me trompe, ça vise justement les Haïtiens, les Maghrébins, les Libanais.
Alors, Parizeau s'en est expliqué en disant les votes ethniques, hein, donc les votes en bloc de certaines communautés. Mais vous avez 10 secondes pour répondre à ma question. Est-ce que ça se peut ou ça se peut pas, de façon plus large? Tiens, prenons les anglophones là, du Québec. Les imaginez-vous...
Ben non, mais les anglophones, probablement jamais. Mais les autres dont on parle, moi, je pense qu'il y a une possibilité. Depuis ça, de toute façon, c'est pas leur problème, c'est le problème du mouvement indépendantiste. Donc, c'est un peu comme si vous me disiez, Nick, ah ben, on les aura jamais, fait que tant qu'à ça, on va laisser faire et on va leur taper sa tête. Ben, ouais,
Moi, je n'ai pas dit ça. Je suis l'animateur de l'émission. Cher collaborateur, Frédéric Bérard, Steve Fortin, toujours un plaisir de vous entendre. Retournez-vous confiner. On vous parle la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Au plaisir. Dans un instant, Jean-François Lisée est avec nous. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, comment résumer le parcours de notre prochain invité sans trop, sans prendre le reste de l'émission pour le faire? Disons qu'il est nouvellement chroniqueur au journal Le Devoir. Il a été auparavant député de Rosemont de 2012 à 2018, si je ne m'abuse, ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, chef du Parti québécois de 2016 à 2018. Ça, c'est pour le passé récent. Il y a un peu plus longtemps, il était parmi les conseillers de Jacques Parizeau, puis de Lucien Bouchard, donc pendant toute la période référendaire et post-référendaire. Et puis, il s'était fait remarquer aussi lors de la publication d'ouvrages comme « Le tricheur et le naufrageur » qui traitait de l'œuvre de Robert Bourassa dans la période post-Meach, entre autres choses. Je parle bien sûr de Jean-François Lisée. Bonjour, Monsieur Lisée.
Oui, vous êtes... Dites seulement un jeune chroniqueur au Devoir qui promet beaucoup. Oui, c'est plus simple, c'est plus court.
Ah ben oui, mais là on va penser que je parle d'Émilie Nicolas ou de... Allez savoir. Alors, faut pas se tromper. Non, je pense que vous méritez un peu de présentation quand même. Et bien sûr, on sait que vous êtes encore jeune, Jean-François Lisée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous, d'ailleurs, vous publiez ce matin un texte fort intéressant là dans Le Devoir sur lequel on revient dans un instant parce que ça traverse le sujet dont on veut parler aujourd'hui. Bien sûr, le référendum de 1995 qui avait lieu hier, il y a 25 ans. Mais dites-moi d'abord, juste un instant, là... Comment avez-vous traversé la frontière entre le journalisme et le statut de conseiller de Jacques Parizeau? Vous aviez donc publié Le Tricheur et le Naufrageur, notamment. Vous aviez été aussi l'auteur de, me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe, mais de ce dossier dans la revue L'Actualité, là, à l'époque du référendum de Charlottetown, n'est-ce pas?
Oui. Oui, les dossiers secrets de Bourassa, oui.
Qui avait intercepté là deux fonctionnaires du gouvernement du Québec qui déploraient.
Ça, c'était l'audio, c'était les fonctionnaires. Ça, c'était une bande audio qui avait été interceptée par quelqu'un à Québec. Mm-hmm. Donc, moi, j'avais obtenu d'une source les documents écrits par les conseillers constitutionnels de M. Bourassa, lui expliquant que l'entente de 92 était extrêmement mauvaise. Et donc, c'était le contraire de ce qu'il en disait pendant la campagne référendaire.
Voilà. Et donc ça, et puis la publication de ces livres sur Bourassa, ça vous destinait, disons que ça vous valait une certaine estime de la part des souverainistes déjà.
Oui, quoique j'avais eu la dent dure avec les souverainistes aussi, et puis j'étais journaliste à L'Actualité, que je me souviens que M. Parizeau était très mécontent d'une entrevue que j'avais faite avec lui, mais la façon dont ça s'est passé, c'est que bon, moi, avant tout ce qu'on vient de dire, j'étais un jeune souverainiste, j'étais membre du PQ à 14 ans, ce qui est illégal, hein, il fallait 16 ans, j'étais au congrès de 73, ce qui me rajeunit pas, j'ai toujours été souverainiste, indépendantiste. Lorsque j'étais à l'étranger un certain nombre d'années, et au moment de Meach, je m'étais beaucoup intéressé aussi aux conseillers politiques. J'étais correspondant aux États-Unis, j'avais beaucoup écrit sur les conseillers politiques américains. Et dans Le Tricheur et le Naufrageur, je parle beaucoup des conseillers de Bourassa, ceux de Parizeau aussi. Et puis je me suis dit, ben coudonc, je pourrais faire ça. Moi, je pense que, tu sais, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, d'être conseiller. Et surtout, je voulais être de l'équipe qui allait faire l'indépendance. Et il me semblait, en 94, que M. Parizeau allait la faire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je suis allé voir M. Parizeau après la publication de tout ça. Puis je lui ai dit, ben écoutez, moi, j'aimerais être votre conseiller, peut-être pour vous aider pour les médias étranger, parce que donc j'avais été correspondant étranger, puis j'aimerais participer peut-être à la communication qui concerne la souveraineté. Et c'était ça mon idée. Moi, je pensais que j'avais des compétences très nichées. Alors, il était surpris
Alors peut-être qu'il s'est dit, bon, je vais l'engager de telle sorte qu'il ne pourra plus faire des textes dans l'actualité qui me déplaisent. Oui,
exact.
Rapprochez-vous de vos ennemis. Je blague, bien sûr, mais...
Non, mais c'était une hypothèse qui était soulevée par certains collègues journalistes qui disent, bon, ben maintenant qu'ils ont lésé, ils vont le mettre dans un bureau sans téléphone. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, mais peut-être que je viens de faire une très grave erreur, mais jamais j'aurais pensé devenir, moi qui étais comme le dernier entré, avec le chef de cabinet, le principal conseiller à la stratégie référendaire. Ça, c'était pas...
Oui, parce que la suite des choses montre bien que vous n'avez pas perdu votre temps dans un bureau, pas de téléphone. On voit bien le rôle que vous avez joué. J'invite nos auditeurs à aller se documenter. Il y a notamment ce documentaire de Radio-Canada qui s'appelait « Point de rupture », qui est fort intéressant. Vous me direz si vous êtes d'accord, Jean-François Lisée. C'est un documentaire qui prend quand même un peu le point de vue canadien, c'est-à-dire que les méchants sont les souverainistes très souvent là-dedans, mais du point de vue de l'information, c'est fort utile, je pense, pour quelqu'un qui a pas connu ça de l'intérieur.
Oui, oui, non, mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et puis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Il y a deux volets. Moi, je suis incapable d'écouter le deuxième. Le premier, ça va. Le deuxième, je trouve ça trop triste.
Alors, on arrive dans
le... C'est pas à cause du biais, c'est à cause de l'événement.
Bien sûr. Alors justement, ce qu'on voit dans ce documentaire et ce dont vous parlez dans votre texte de ce matin dans Le Devoir, entre autres choses, vous évoquez ça, vous parlez du cran de Jacques Parizeau, vous parlez de son obstination, si vous n'employez pas ce mot-là. Et là, c'est très intéressant pour comprendre ce qui s'est passé, puis pour comprendre aussi peut-être la suite des choses. Alors, d'une part, vous dites, ce référendum est advenu de par la détermination de Parizeau et un peu malgré, parfois, sinon son entourage, en tout cas l'entourage plus large là dans le mouvement souverainiste, Lucien Bouchard, qui était plutôt opposé, qui trouvait que les sondages n'étaient pas favorables, par exemple. Oui, c'est ça, la détermination de Parizeau. Et puis vous dites, bon, il s'en va. Et vous posez à la fin de votre texte une question difficile. Vous dites, est-ce que Lucien Bouchard et Mario Dumont n'ont pas, au fond, échappé le ballon de l'histoire, manqué leur coup alors qu'ils avaient entre les mains la recette, les fameuses conditions gagnantes dont a tant parlé M. Bouchard?
Je vais revenir un petit peu en arrière. C'est sûr que dans la suite de la défaite de l'accord du Lac-Mitch, où on demandait d'être simplement reconnu comme société distincte, le refus du Canada de faire ça a provoqué une flambée d'opinion souverainiste au Québec. Là, la moyenne des sondages de 1990, c'était 67% en faveur de l'indépendance. Je veux dire, c'était extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que tous les souverainistes, y compris monsieur Bouchard, et tous disent, bon, ben là, on y va, là, tu sais, on y va, ça va arriver. Il y a le Charlottetown, il y a l'élection des bloquistes en nombre extraordinaire à Ottawa. Puis, lors de l'élection du Parti québécois en 1994, ben, l'élection se fait qu'à 44%. Alors que les souverainistes voulaient avoir 50. Ils pensaient que ça allait comme mettre la table pour un référendum facile. Mais ce que j'appelle la marée de Meech, à mesure qu'on s'éloignait de Meech, la marée
se
de
résorbait,
Meech se retirait.
Oui.
C'est ça. Et puis là, on était à 44, évidemment, dans une élection. Bon, les sondages de 94 ne sont pas bons pour la souveraineté. Hein? On n'est plus très, 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 très élevé. Donc, vient le débat, comment remettre la souveraineté au cœur de la discussion, et ça c'est drôle à dire maintenant, mais c'était notre principal problème. Moi je suis devenu conseiller de M. Parizeau le lendemain de l'élection. Tout le monde avait des têtes d'enterrement, là. Je veux dire, c'était pas la victoire qu'il voulait. Puis notre problème, c'était comment remettre la souveraineté au cœur du débat.
Alors, c'est vous, Jean-François Lisée, qui proposez la tenue des commissions sur l'avenir du Québec, là, qui occuperont le devant de la scène médiatique et du débat politique pendant plusieurs mois, c'est bien ça?
C'est ça, c'est ça. Et puis, qui ont été un succès et un échec. C'est-à-dire, un succès, c'est parce que ça nous prenait... La situation était tellement polarisée que pour reconstituer la coalition du changement, il fallait trouver un sas de transition où les conservateurs souverainistes, les adéquistes souverainistes, les libéraux nationalistes puissent venir dans un lieu de transit. Et ça, c'était les commissions pour l'avenir du Québec. Et ces gens-là deviendraient dans chaque région du Québec ensuite des porte-parole de la coalition pour la campagne. Alors ça, je veux dire, le recrutement de porte-parole de la société civile a été un succès, mais les commissions n'ont pas permis de faire augmenter l'appui à la souveraineté.
Bouger l'aiguille des sondages, hein, qui restait sur la question, parlons de la question dure, puisque c'est encore pire, c'est la question dont les sondages disent qu'elle est dure, c'est la question qui pose simplement le problème. Voulez-vous que le Québec soit indépendant ou non, là, sans notion d'association, de partenariat? Et à l'époque, si je ne m'abuse, c'était dans les 30% fort, là, 38
non, on était,
à cette question-là?
Non, on était entre 40 et 46.
Oui, mais ça, c'était pas sur la souveraineté association, non?
Non, ah bon? on savait, lorsqu'on était à 45-46, on savait que lorsqu'on réintroduirait d'une façon ou d'une autre la notion d'association, on allait probablement passer le 50. Et là, donc, c'était tout le débat du printemps. Mais donc, juste pour dire que lors de l'élection de 94, M. Parizeau dit, bon, ben, on va enclencher le référendum. C'est certain qu'il y aura un référendum dans la première partie du mandat. Et, disait-il, dans 6 mois à 1 an, et puis M. Landry insistait toujours pour dire, par exemple,
oui, c'est un peu l'équivalent de son « si possible » plus tard, là, aussitôt que possible, quelque chose comme ça.
Et là, évidemment, il y avait comme deux tendances. Il y avait les gens autour de M. Parizeau, dont j'étais, et j'en voyais quelques autres, qui disaient, ben là, ce qu'il faut, c'est mettre du... l'expression de Jean Royer, c'était de mettre du bois dans le poêle. T'sais, il faut faire augmenter la chaleur pour arriver à retrouver notre 50%. Pour moi, c'était clair que comme il y avait eu 67% des Québécois qui avaient goûté aux fruits défendus 4 ans avant, il y avait une majorité qui était disponible, immergée, mais disponible, et qu'il fallait faire émerger. Bon, pour les gens comme Monsieur Bouchard puis Monsieur Landry, ils n'étaient pas dans une. Ils pensaient que la situation était statique, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chauffer le poêle puis ça allait émerger et que donc il fallait être prudent. Et donc les demandes auprès de Monsieur Parizeau pour qu'il reporte le référendum étaient extrêmement fortes de l'externe et de l'interne. Et puis, je me souviens d'une fois, on était en mars 95, où on est M. Parizeau, quelques conseillers, on est peut-être 5 dans son bureau, il dit, parce qu'il fallait décider si on abandonnait l'idée de le tenir au printemps, ce qui n'avait jamais été notre principale hypothèse. Mais on la gardait vivante, mais on l'avait pas encore discartée complètement. Puis M. Parizeau nous demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au Québec qui veut un référendum en 95? Pas seulement au printemps, il dit en 95. Et je lui dis, M. Parizeau, oui, ils sont tous dans cette pièce. Alors, ce qui était une exagération, mais ce qui donnait un peu l'esprit du moment. Alors finalement, on a réussi, grâce à la négociation avec la DQ et le Bloc, à avoir de meilleurs mois. Et lorsque les Québécois ont vu, puis là, c'est la beauté du psychodrame, du virage, parce que lorsque M. Bouchard...
Alors, le virage, vous parlez de cette entente entre Bouchard, Parizeau et Dumont?
Avant ça, donc, quand ça va mal, comme au mois de mars, M. Bouchard dit, ça prend un virage, et là, il y a une crise majeure entre M. Parizeau et M. Bouchard.
Ah oui.
M. Bouchard dit d'ailleurs dans une entrevue, ben écoutez, si M. Parizeau veut tenir un référendum, c'est bien à lui de le décider, mais moi, je ne garantis pas que j'y serai. C'est le moment le pire, OK? Et puis là, les Québécois suivent, nous on voit avec les focus groups, etc., c'est un énorme, c'est comme une série de Netflix, là, donc le drame est majeur. Et ensuite, il y a cette réconciliation avec l'entente entre M. Parizeau, M. Bouchard et M. Dumont, donc une fin positive. Donc on a frôlé la mort, mais on est sorti du tombeau, hein, après 3 jours. Et puis là, il y a une embellie, et il y a une majorité à l'été 95.
Oui, parce que ça redescend après, hein, d'appui à la souveraineté. Bref, c'est toujours des soubresauts comme ça. Et ça j'abrège un peu parce que le temps nous bouscule déjà, Jean-François Lisée. Mais donc, en tout état de cause, le référendum sera perdu de peu. Monsieur Parizeau s'en va. Lucien Bouchard prend le relais. Et là, c'est ce dont vous... C'est la pièce un peu de résistance de votre texte de ce matin. Monsieur Bouchard pense qu'il pourrait refaire un référendum à condition de retourner en élection. Et l'entourage lui dit, écoutez, là, nous, on est fatigués. Ça fait plusieurs élections, référendums de suite qu'on fait. Laissez-nous donc tranquille un peu. Et selon vous, c'est une immense erreur qu'a commise Lucien Bouchard à ce moment-là que d'écouter ce qu'on lui a dit, de ne pas y aller. Mais au-delà de tout ça, parce que à ce moment-là, dites-vous, dans l'année 96, l'appui au oui a monté beaucoup là, jusque-là à 56%. Mais la question que je veux vous poser, c'est au-delà de tout ça, à travers toutes ces tractations, valses hésitations, la valse des sondages, les déchirements, les négociations entre les divers acteurs, il y a quelque chose qui traverse tout ce que vous dites, c'est d'une part, la détermination de Parizeau à travers tout ça, et du côté de Bouchard, qui n'est pas seul, qui représente beaucoup de gens dans son attitude, dans son approche, beaucoup plus de crainte et de... On a l'impression qu'il ne serait rien arrivé si ça n'avait été que de M. Bouchard, finalement, dans ces années-là.
Effectivement, si ça avait été que de... Je veux dire, sans Jacques Parizeau, il n'y aurait pas eu de référendum en 95. C'est clair? Le parti en aurait voulu un, mais en tout cas parmi les leaders, c'est Parizeau qui tenait contre la pression de le décaler ou de l'annuler. Parizeau parti, je veux dire, c'est clair que il appartenait aux deux autres leaders du oui, c'est-à-dire M. Bouchard et M. Dumont, puis à des gens comme Bernard Landry, qui était le vice-premier ministre.
De reprendre le témoin, donc.
De prendre le témoin.
Mais ce que je suis en train de dire, c'est ce qui s'était produit avant n'est pas un peu annonciateur de ce qui est arrivé après. C'est-à-dire qu'on voulait tellement être sûr de gagner. Exact. Ou de deux choses l'une. Soit on voulait être tellement sûr de gagner qu'on n'a rien fait, soit on n'était pas, au fond, si... ça, c'est la question plus terrible. Si motivé que ça, M. Bouchard, peu d'années auparavant, était un politicien fédéraliste, ministre de Brian Mulroney. Est-ce que ça peut expliquer les choses, ça, aussi?
Il n'y a aucun doute que M. Bouchard aurait voulu gagner un référendum sur l'indépendance.
On le voit dans cette entrevue qu'il a donnée au Devoir, hein, conjointe avec Mario Dumont, là, ces jours-ci.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus qu'il aurait voulu faire ça. Maintenant, encore là, moi je pensais que c'était une erreur de dire qu'il voulait pas aller en référendum sans avoir une élection, mais bon, si l'élection se faisait assez vite, ça pouvait être un gain, parce qu'il y aurait eu tellement de députés qu'il y aurait eu moins de députés fédéralistes québécois sur le terrain, mais perdre du temps en 96, pour moi, puis je lui avais dit, j'avais écrit, on n'a pas beaucoup de temps, cette embellie va être brève.
Et lorsque... Ben oui, parce qu'on gouverne, parce que le momentum s'en va, et ainsi de suite.
Le momentum s'en va. Même peu importe comment on gouverne, le momentum s'en va, et lorsqu'il teste l'idée, il ne tente pas de convaincre, il teste l'idée. Et les gens lui disent, c'est sûr, s'il teste l'idée, les gens comprennent qu'ils trouvent que ça serait peut-être une bonne idée. Puis les gens lui disent, on est bien fatigués. Moi, ça m'a beaucoup surpris d'entendre tout ça. Mais ils disent, mais c'est vous le chef, puis si vous décidez d'y aller, on va y aller. Et puis c'est là que je dis, c'est sûr que M. Parizeau aurait dit, mais écoutez, les conditions sont réunies, on part, ou Jean Chrétien aurait dit, comme il le dit souvent à ces gens, vous en voulez pas d'élection rapide, moi j'en fais une. Vous en voulez pas de loi C-20, moi je la veux. Et donc c'est le genre de volontarisme qu'il aurait fallu à ce moment-là.
Qui a fait défaut, on arrive à l'élection, vous auriez pu parler de ça aussi, de 1998, je crois, où on a beaucoup fait état du fait que le Parti québécois de Lucien Bouchard avait obtenu un peu moins de voix que les libéraux de Jean Charest, quelques dixièmes de points, je me souviens plus, très peu, là, 1% peut-être. Mais cependant, messieurs Bouchard et Dumont, à eux deux, avait encore un score considérable quand on y pense. Lucien Bouchard fait le choix de remettre à plus tard ou de ne pas remettre du tout.
Oui. Bon, là, c'est intéressant parce que j'ai entendu M. Dumont dans cette entrevue au Devoir dire que, nous, tu sais, il lui manquait, 27 000 voix Et puis, Mario m'a dit, moi j'en avais 400 000, puis j'étais de la coalition. Ben oui, mais Mario n'a pas fait campagne absolument pas sur l'indépendance. Il n'a jamais dit qu'il voulait les conditions gagnantes en 1998.
Mais sur une forme de nationalisme, néanmoins.
Ben oui, mais tu sais, c'était le précurseur de la CAQ. Mm-hmm. On peut vraiment pas dire que ces 400 000 votes sont des votes pour un parti indépendantiste en 98. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu révisionniste en entendant ça cette semaine. Mais moi, je pensais justement que on avait payé cher en 98 notre position de condition gagnante. Donc, on l'avait payé en perdant le vote. Mais on l'avait acheté. On l'avait payé cher, mais on l'avait acheté. Et donc, il fallait...
Qu'est-ce que vous voulez dire, acheter?
Ça veut dire que puisque on avait dit dans la campagne, si vous nous élisez, puis qu'on a les conditions gagnantes, on va faire un référendum, puis les gens avaient dit, ben là, on vous élit, mais avec moins de votes à cause de ça, pour moi, c'est qu'on avait payé en vote notre détermination à y aller.
C'est devenu une sorte d'élection référendaire sur le référendum.
C'est-à-dire qu'on avait, on avait eu un coût politique à notre détermination, mm-hmm. et ayant payé le coût politique à l'élection, ben on avait dans notre besace cette détermination. T'sais? On l'avait. Il fallait continuer. Mais la lecture de M. Bouchard, c'est que ben non, on ne l'avait pas. Et que donc, la première chose qu'il a dite le lendemain de l'élection, il n'y aura pas de référendum au moins pendant la première moitié du mandat. Puis ça, c'était terrible. Bon, mais c'est une question, une différence de lecture, tu sais, entre ceux qui considèrent que les situations sont statiques ou qu'elles sont dynamiques. On peut ou
ça
non,
devient une différence de caractère aussi, oui, d'approche.
Oui, oui. Puis les gens qui disent « je vais plier la réalité à ma volonté » comme Parizeau, Churchill, De Gaulle, etc., ben on parle de ceux-là parce qu'ils ont plus ou moins réussi. Il y en a sûr qu'il y en a plein qui ont échoué parce qu'ils étaient trop déconnectés de la réalité. Alors c'est toujours un dosage difficile, mais c'est sûr que quand on a la conjoncture et la volonté, ça marche. Quand on a juste la volonté, ben il faut changer la conjoncture. Mais en 96, il y avait la conjoncture, il n'y avait pas la volonté.
Alors, 97, 98, l'appui redescend doucement à la souveraineté, bien qu'il reste quand même appréciable, là, il faut bien le dire.
On est à haute 40. On est toujours à haute 40.
Parfois, ponctuellement, ça traverse ou ça s'approche du 50 %. Ça reste comme ça quand même longtemps, là, jusqu'à la toute fin du mandat de Bernard Landry, premier ministre désigné. Là, ça commence à fléchir un peu. Vous-même, oui. Jean-François Lisée, en 2000, vous publiez un livre qui s'appelle « Sortie de secours ». Oui. Dans lequel vous semblez prendre acte, ou en tout cas, d'après vous, d'un blocage. Vous pensez qu'il ne sera plus possible, ni par volontarisme, ni autrement, de reprendre la main. Vous dites, nous devons désormais, par une démarche d'autonomie à l'intérieur du Canada, défendre les intérêts du Québec. Est-ce qu'on aurait pu, à ce moment-là, avoir une autre approche, d'après vous, parce que c'est celle qui va finalement prévaloir jusqu'à 2018, et là, on boucle la boucle. Vous êtes devenu chef du Parti québécois. Vous avez maintenu cette position en disant, on n'a vraiment pas ce qu'il faut. Passons par des chemins de travers, si on veut.
Mmh. Ben, c'est-à-dire, en 2000, on était encore... c'est mon combat d'après 98. Je dis, bon, le problème qu'on a, c'est que là, la situation, la volonté... dans l'opinion se dégrade. Elle continue à se dégrader. Je me dis, bon, ben donc, il faut trouver une autre façon de mettre du bois dans le poêle. Puis, comme on s'éloigne de Meach, c'est Meach qui a mis du bois dans le poêle, là. C'est pas M. Parizeau personnellement. Donc, c'est...
Ah ben ça, c'est une bonne question. Vous m'ouvrez une porte. Ouais. Pardon, parce que le temps nous bouscule. On parle souvent de ça, de Jacques Parizeau, qui aurait, en quelque sorte, cueilli comme un fruit mûr le contexte favorable de l'après-Meach. Mais... est-ce qu'on n'oublie pas que, d'après vous, là, Parizeau n'a-t-il pas été un catalyseur, un élément de l'édification de ce contexte? Est-ce que les fédéraux se seraient braqués? Est-ce que Mulroney et Bourassa auraient tant tenu à réparer l'affront constitutionnel? N'eût été d'un Parizeau qu'on savait sérieux, là?
Ben, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il faisait partie des variables. mais il n'était pas la principale variable. Puis je pense qu'une variable plus importante que Parizeau dans la construction de la majorité souverainiste de Meech, mm-hmm. c'est le décès de René Lévesque. C'est l'allumeur. Il y a le décès de René Lévesque, il y a le débat sur la langue, et ensuite il y a Meech. Ça, c'est les trois événements qui portent à 67% le vote souverainiste. Évidemment, M. Parizeau a très, très bien joué son rôle de chef des souverainistes à ce moment-là, en nourrissant le fait qu'il fallait être intransigeant sur ce minimum, il ne fallait pas aller en bas, puis il était allé au Canada anglais leur dire « Hey, si vous appuyez Meech, je vais en demander plus. » Alors, il y avait aussi soufflé sur les bras de l'intolérance au Canada anglais. Donc, il a joué un rôle, mais il n'était pas déterminant. C'est pas parce qu'on a fait des bonnes assemblées de cuisine qu'il y a eu 67% d'appui à l'indépendance.
Donc, la détermination, le volontarisme, d'après-vous, ont quand même des limites.
Ah oui, ils ont des limites.
Il nous reste à peu près 2 minutes, donc choisissez.
OK, ben alors je reviens à sortir ce cours parce que c'est pas exactement ce que vous avez dit. Alors moi, je dis, donc, ce rejet du Canada, qui est maintenant trop loin, on est en 98, qui a eu lieu en 90 à Meech, mm-hmm. il faut le refaire. Il faut redemander au Canada ce qu'on veut, dans l'espoir qu'ils nous disent non, puis à ce moment-là, là oui, l'opinion, on va pouvoir remonter en haut de 50.
Mais est-ce que des souverainistes peuvent faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence, à la limite de confiance? Comment l'électorat peut-il faire confiance à des souverainistes qui disent « Oui, je suis devenu un honnête réformateur du Canada. »
C'est ce qu'on se dit entre souverainistes, OK? Mais lorsqu'on pose la question aux Québécois dans des sondages, ils disent « On n'a aucun problème à ce que le PQ demande des pouvoirs. » C'est pas les Québécois. La difficulté, c'est le congrès du Parti québécois qui considérerait ça comme un abandon. Okay? Mais pas l'opinion. Une fois que l'opinion s'engage dans un processus comme celui-là, puis c'est pour ça que je pensais que M. Bouchard, ancien favorable à Meech, ancien, etc., avait plus de crédibilité, bien sûr, que quelqu'un comme Parizeau.
Aurait pu faire le pont, là, boucler la boucle.
Ce pont-là. Mm-hmm. Alors, moi, je pense que c'est l'autre occasion manquée. Évidemment, ça aurait, je lui disais, ça va provoquer une crise au sein du PQ. M. Parizeau va déchirer sa carte. On va gagner le référendum sur l'autonomie. Le Canada va dire non. On va faire un référendum sur la souveraineté. M. Parizeau va reprendre sa carte. Puis là, on va gagner.
C'est tout le temps qu'on a, Jean-François Lisée, mais on a donné amplement de matière à réflexion, je pense, à nos auditeurs. C'était fort intéressant de vous entendre ce matin. Puis peut-être que dans une deuxième partie, bientôt, nous traiterons de la suite de l'histoire. Allez savoir.
D'accord. Et en attendant, les gens peuvent lire ce que j'écris dans Le Devoir ou venir sur mon blog.
Bien sûr, et vous venez de faire paraître ce livre sur la crise d'octobre également.
Exact.
J'oublie le titre, mais merci beaucoup Jean-François Lisée, c'était un plaisir.
Merci à vous, au revoir.
Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à samedi prochain pour une autre édition de Société.